C'est l'heure de votre rendez-vous Parole de vie, c'est Christine avec vous. Notre invité, Jacques-Daniel Rocha, a déjà eu l'occasion de s'exprimer à notre micro sur plusieurs thèmes. Il a travaillé dans des projets bibliques, techniques, de recherche. Il est président d'une association, Entraide. Il donne des conférences dans divers pays et il est l'auteur de plusieurs livres. Mais aujourd'hui, dans Parole de vie, nous allons l'entendre parler d'un sujet très personnel. Quelque chose de lui qui ne se voit pas forcément à l'œil nu, si on peut dire, mais qui influence la plus petite parcelle de son être. Alors on a laissé planer un peu de mystère, Jacques-Daniel, mais ce sujet très personnel, c'est votre foi. Et aujourd'hui, vous allez expliquer pourquoi vous êtes chrétien et quels sont les fondements qui vous ont convaincu de le devenir et de le rester. Alors Jacques-Daniel, c'est quoi ces trois piliers, ces trois fondements ?
Alors ça va peut-être vous surprendre, puis les auditeurs aussi, mais pour moi, l'un des grands fondements qui me conduit à m'attacher à la foi chrétienne s'appuie sur la révélation que Dieu est humble. C'est vrai que l'homme a depuis toujours été fasciné par la grandeur. Mmh. Et quand on regarde la religiosité naturelle, ça conduit les hommes à croire que c'est dans l'élévation qu'ils vont trouver Dieu. On peut penser aux pyramides, par exemple, hein, les constructions imposantes, les tours, les temples majestueux. Et pourtant, quand on écoute l'Évangile et la Bible, on se rend compte que Dieu n'est pas de ce côté.
Donc Dieu ne serait pas dans les grands bâtiments, dans les grandes choses, dans les...
Non, même dans l'univers. Par exemple, on regarde l'univers, on dit « Ah oui, Dieu doit être derrière cet univers ». Quand on regarde, même sur le plan scientifique, c'est intéressant. Notre univers qui est gigantesque, absolument colossal, qui compte des milliards de galaxies, a commencé sous une forme absolument microscopique.
Ouais.
Donc c'est quand même assez étonnant. Et on voit que Dieu se plaît à faire de grandes choses avec celles qui sont infimes.
Ouais. Donc ce serait ça pour vous, la grandeur de Dieu qui se manifeste par son humilité, ce serait même sa signature.
Oui, ben, prenez par exemple dans la Bible, est-ce que Abraham est un roi puissant de Mésopotamie ? Non, bon, il fait partie d'un groupe de bergers nomades. Moïse par exemple, et puis même le peuple des Hébreux, c'est un peuple petit, d'esclaves, qui sont méprisés, qui sont sous la... Vous voyez, ce n'est pas l'Égypte dans sa splendeur, non, c'est le petit peuple qui est méprisé d'esclaves. Et c'est eux que Dieu choisit. Et puis, quand enfin, et on le voit dans les évangiles, Dieu vient parmi les hommes, est-ce qu'il y a un grand cortège avec, je ne sais pas, des effets visuels ?
Son et lumière.
Voilà, son et lumière. Vous voyez, à l'échelle divine, ça aurait pu être, non, c'est un petit bébé dans une crèche. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort, parce qu'au travers de toutes ces choses, Dieu montre sa majesté. Il peut instantanément détruire tout l'univers et tout, mais il s'approche respectueusement des hommes. C'est un souffle doux et léger qui vient toucher notre cœur. Et je trouve que ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On peut dire que seul l'Évangile ose le scandale de présenter le grand Dieu en un humble et respectueux créateur qui va descendre parmi les hommes. Dans la pensée humaine, c'est presque un automatisme, mais dans tous les concepts religieux, on voit que ça vise à ce que l'homme monte vers Dieu, se fasse toutes sortes de choses, etc. Même dans un christianisme qui n'est pas un vrai christianisme, où on voit aussi ce côté-là, de faire des grands bâtiments, des cathédrales, des objets sacrés, etc., où on a ce culte de la grandeur, sans prendre conscience que non, au travers de cette révélation, on voit un Dieu qui descend, et qui peut être dans le prochain, qui peut être dans le malade, qui peut être là où on l'attend le moins.
Jacques-Daniel, le premier fondement de votre foi, c'est donc cet émerveillement devant un Dieu humble qui se révèle dans les petites choses. Le deuxième fondement de votre foi, ce serait quoi ?
Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont affirmé, puis qui affirment encore être des élus, et puis on ne compte plus les gourous, les illuminés qui, dans l'histoire, ont prétendu détenir des clés spirituelles, qui se sont donné un droit de vie sur leurs semblables, etc. Moi, je trouve ça très pathétique, parce que croire que Dieu a attendu des millénaires pour subitement tout focaliser sur une personne, c'est une ahurissante dose d'orgueil, vous voyez.
D'un
coup, vous dites, voilà, moi qui vis à telle période de l'histoire, je suis celui qui a été annoncé, je suis celui qui connaît les choses spirituelles, la vérité est en moi, etc. C'est totalement archaïque et stupide même. Effectivement, si Dieu existe, alors là, il a forcément été présent et il a forcément agi dans les périodes qui nous ont précédées. Et c'est pourquoi, face aux aux illuminés autoproclamés, la Bible pose une révélation progressive et profondément incarnée dans l'histoire humaine. Les gens croient que la Bible a été écrite par une personne. Ce n'est pas du tout ça, c'est une bibliothèque de beaucoup d'ouvrages. Et il y a plus de 40 auteurs qui ont rédigé la Bible dans une période de plus de 1500 ans, même probablement beaucoup plus, mais on n'arrive pas à retrouver les écrits qui ont peut-être été mis sur des supports qui ont disparu. Parmi ces écrivains, donc là aussi pas un illuminé qui aurait eu toute la révélation, non, mais des esclaves, des rois, des ouvriers, des juges, des bergers, des chanteurs, des femmes, toute une collection d'auteurs qui ont participé à recueillir ces traces de l'action de Dieu dans leur époque, des inspirations, les révélations, puis qui les ont mises sur ce support qu'est la Bible.
C'est intéressant aussi de remarquer que le Christ, lui, ne rédige pas lui-même de textes bibliques. Hein. Il n'y a pas d'écrit
de Jésus
qui,
dans la Bible,
qu'il aurait fait lui-même. Et ce sont ses disciples, ceux qui l'ont vu vivre, et même ceux qui sont venus après, qui vont lui rendre témoignage.
Il y a 4 évangiles dans la Bible. C'est un peu comme si on nous disait, voilà, il y a 4 personnes qui ont rendu témoignage de ces choses, et ça donne une autorité. Donc, ce n'est pas Jésus qui va écrire et qui va dire « voilà ce que je suis », mais c'est ceux qui sont autour de lui qui vont donner ce témoignage, qui est finalement un témoignage extrêmement fiable, justement parce qu'il y a plusieurs sources.
Non seulement il y a ces témoignages des 4 évangiles, mais il y a en plus des témoignages historiques. Hein. Il y a des recueils, on peut retrouver trace aussi de l'œuvre du Christ dans différentes choses historiques.
Oui, alors on a découvert très récemment en Israël donc, le tombeau, par exemple, du prêtre Caïphe, qui est mentionné dans les évangiles. C'est quand même impressionnant. Il y a les traces de Pilate aussi, alors qu'il y a un temps où on disait que ce personnage n'avait pas existé. Donc on remonte, bien sûr c'est difficile puisque ça concerne des temps très anciens, mais il y a vraiment une attestation au niveau des pierres, au niveau de ce qui a été écrit dans l'histoire, et finalement cette révélation qu'on peut découvrir dans la Bible. Et pour moi, ça c'est très important parce que autrement, ça serait très léger. Quelqu'un qui dit « j'ai reçu une révélation », il peut écrire n'importe quoi. Là, on a en même temps des choses qui sont du domaine de la révélation, mais on a tout à fait ce terreau qui remonte dans l'histoire et on peut voir les choses.
On a parlé de Dieu humble, comme on l'a vu en premier. On voit maintenant son travail dans toute l'histoire de l'humanité. Et ce serait quoi le troisième fondement de votre foi?
Alors ce troisième aspect, c'est un peu comme le diamant qu'on place au centre de la boîte. C'est que Dieu est infiniment bon. C'est presque un mystère en fait. Mais si on presse la révélation biblique, on sait que dans la révélation biblique, il y a des commandements, il y a des choses qui peuvent paraître des fois. Mais quand on serre toutes ces choses, qu'on les compresse comme un
citron,
exactement, qu'est-ce qui sort? Eh bien, c'est une extraordinaire démonstration de l'amour de Dieu pour les hommes, pour tous les hommes, avec un désir qu'ils vivent bien, de manière harmonieuse. Dans la Bible, il y a quelque chose d'assez excellent, c'est qu'on a le sentiment quand on l'écoute que Dieu désire le bon. Dieu désire la fête, par exemple. Et si vous regardez dans la religion juive, déjà, qu'est-ce que Dieu demande aux gens? Ben, c'est de faire quoi? C'est de prier 24 heures sur 24? C'est de se priver de nourriture? Pas du tout. Ce qu'il va donner au peuple juif, c'est de vivre des fêtes. Ça fait partie de ce que Dieu désire pour les hommes. C'est pas du tout, et les gens imaginent que dans la Bible, c'est rempli de commandements, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et pas du tout, il y a les 10 commandements, il y a d'autres commandements, etc., qui étaient aussi des fois culturels, hein, qui sont maintenant dépassés. Mais au-delà de tout cela, il y a une invitation extraordinaire. Et même la notion que moi je trouve excellente, qu'est-ce que Dieu demande dans l'Ancien Testament aussi? Il demande aux hommes de se reposer. Alors que le peuple juif avait été esclave, être esclave, c'est travailler 7 jours sur 7 sans s'arrêter, etc. Et puis l'ordre que Dieu donne, c'est non, tu vas te reposer. Tu vas prendre du bon temps. Tu vas t'arrêter. Tu ne vas pas te laisser contrôler par le monde qui passe, par son agitation, par les oppressions même économiques, etc. Tu prendras un temps pour toi où tu seras bien.
D'où alors cette idée de la bonté de Dieu qui veut notre bien,
voilà,
jusque dans des
fait.
Choses aussi pratiques.
Oui, alors ça fait partie de ce que Dieu veut. C'est pourquoi une société qui suit finalement les valeurs de l'Évangile devrait amener à grandir dans son niveau de qualité de vie. Et si l'Évangile n'apportait pas un profit dans la qualité de vie des hommes et des femmes, ben je dirais que c'est un faux. Parce que comment vous pouvez dire « oui, Dieu vous fera aller dans un paradis, il vous aime », et puis que ça ne transforme pas bénéfiquement les relations entre les hommes et dans la famille, dans la société. Le fait d'aimer son prochain, de respecter, de pardonner, c'est des choses qui sont bonnes. Le fait de se reposer, de faire la fête, c'est des choses qui sont bonnes, et c'est ça l'Évangile.
Donc toutes ces choses sont bonnes, on le comprend bien, mais pourtant ce n'est pas forcément toujours la perception qu'on peut avoir du témoignage chrétien.
Oui, et là c'est le grand drame, et pour moi qui suis chrétien, c'est encore plus terrible, c'est de voir que beaucoup de chrétiens, ou même d'hommes d'église, et même de systèmes d'église, ont pollué l'évangile, allant jusqu'à tuer au nom du Christ. Donc il faut quand même le faire, c'est un non-sens absolu. Ou bien en se focalisant sur des rites, sur des bâtiments, ou même on voyait des ambitions personnelles, etc. Tout ça, c'est pas l'évangile. Donc quand on regarde les textes, on se dit mais c'est pas du tout ce que Jésus a dit et c'est pas du tout ce qu'il enseignait. C'est pour ça, les gens, puis peut-être nos auditeurs, allez vers les textes, lisez l'évangile de Luc, lisez les Actes, lisez le Nouveau Testament, pour voir cette excellence qu'on trouve dans les évangiles. On peut écouter les paroles du Christ, voir ce qu'il a dit. Et puis à ce moment-là, on sait vraiment ce qu'est la source. Hein, si vous allez boire à la source, c'est bon. Si vous allez plus bas dans la rivière, il y a peut-être eu des choses qui sont passées entre temps.
Quelques pollutions qui...
Voilà, ouais, ouais. Ouais.
Tu es l'alpha et l'oméga, l'agneau et le lion à la fois, humble serviteur roi. Qui est pour nous ce roi de gloire, sacrifié pour donner l'espoir. Dieu puissant qui est comme toi, oh, comme toi.
Révélé à travers l'histoire humaine et qui a démontré son amour en venant pacifiquement offrir ses richesses. Voilà ce qui constitue les trois piliers de la foi de Jacques-Daniel Rochat, qui nous encourage, vous et moi, à nous enthousiasmer devant une révélation aussi belle et pertinente sur la nature de Dieu. Parole de vie, c'est fini pour aujourd'hui. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.
Vous pouvez obtenir le CD gratuit de la série d'émissions avec notre invité en écrivant à Parole de Vie, boîte postale 310, 18007 Bourges-Sedex, France, ou via le site www.parole.ch, courriel vie@parole.ch, vie@parole.ch.